FM connecté à votre région.
Théâtre, cinéma, ces façons de voir présentées par Samuel sur 9h FM. Rendez-vous culturel avec aujourd'hui non pas un invité mais deux. Louise Joly, comédienne, metteur en scène, professeur de théâtre, et Jean-Luc Revol, comédien, metteur en scène, directeur de la maison à Nevers. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'émission. Vous venez notamment pour nous parler d'une pièce qui est en cours de finalisation. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, elle est presque sur planche déjà, puisque vous allez la présenter pour la première fois mercredi prochain, jour d'ailleurs de la diffusion de l'émission, à la maison à Nevers. Cette pièce s'appelle Le pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces grivoises du Moyen-Âge. C'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
On en parle dans un instant, juste après Sophie and the Giant Paradise.
I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I'll lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just up so dynamite, dynamite.
Vous êtes toujours sur 9h FM avec Samuel dans Façon de voir. Mes invités du jour, Louis Joly, Jean-Luc Revol, pour nous parler de théâtre. Alors, ce fameux pèlerinage à Sainte-Caquette et autres farces grivoises, de quoi s'agit-il, Jean-Luc ?
En fait, il s'agit de plusieurs farces. Il y en a exactement 6 qui sont regroupées sous le titre générique « Le pèlerinage à Sainte-Caquette », qui est le titre d'une des farces. Voilà, c'est ça. C'est un montage, en fait, de plusieurs farces.
Alors, ce sont des farces médiévales,
oui,
qui sont quand même exprimées dans un français audible pour un homme du 21e siècle.
Oui, exactement. Elles sont dans un français audible parce qu'elles ont été, on va pas dire retraduites, mais adaptées, parce qu'on ne pourrait pas les jouer telles qu'elles sont écrites dans la langue du Moyen-Âge. Il y a des tournures qui sont plus du tout usitées, on va dire ça. Et donc, c'est quelqu'un qui les a remises en français, on va dire, un peu normal, mais quand même avec une...
Avec le style de l'époque, quand même.
Avec le style de l'époque, voilà, c'est ça.
C'est comme si on lisait Rabelais dans le texte,
voilà,
ce qui serait impossible aujourd'hui. Donc Rabelais, qu'on peut lire aujourd'hui, a été adapté à notre langue, en gardant le style rabelaisien, bien sûr. D'ailleurs, c'est un peu rabelaisien.
Oui, c'est très proche. C'est très proche. Évidemment, c'est pas aussi fouillé que Rabelais, parce que c'était souvent des petites farces qui, oui, étaient soit de... C'était une tradition populaire qui se propageait, oui, voilà, de famille en famille, soit des farces qui étaient jouées dans des mystères.
Devant les églises.
Voilà. Les mystères étant des choses qui duraient 2 jours, 3 jours, et puis pour réveiller un peu le public, on injectait comme ça des petites scénettes très populaires, avec souvent des problèmes de couple entre le mari et la femme qui découlent de situations assez abracadabrantes. Alors c'est vrai que moi j'ai fait un choix plutôt sur des choses, des farces grivoises, c'est-à-dire qui sont assez salées.
Avec un langage assez fleuri et direct.
Assez fleuri.
Oui.
On va dire ça. Une couille est une couille.
Oui. Une farce s'appelle le P. Bon, je ne vous dis pas de quoi ça parle, mais on a un indice. Voilà.
Gare au courant d'air dans la salle.
Voilà, c'est ça.
Alors c'est grivois dans le langage, c'est pas, y a pas de situation scabreuse. Tout est dans le langage, mais c'est extrêmement percutant.
D'ailleurs, sur les aspects visuels, alors on peut voir que l'affiche, c'est une enluminure médiévale.
Ouais.
Est-ce que vous avez également travaillé visuellement la pièce ? Je pense notamment au costume, au décor. Est-ce qu'il y a également des renvois médiévaux, ou est-ce que tout est dans le verbe ?
Alors moi j'avais envie que ce soit un joyeux bric-à-brac, et effectivement il y a des costumes d'inspiration médiévale et des choses qui se mélangent un petit peu.
Avec des anachronismes.
Beaucoup d'anachronismes, notamment dans le pèlerinage à Sainte-Caquette. Voilà.
Volontairement.
Ah oui, c'est volontiers, c'est volonté, pardon. Oui, c'est fait.
C'est farce, vous avez eu l'occasion de les roder en itinérance. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu cette chose-là ?
Alors, cet été, nous avons joué une des farces sur les 6. Nous avons joué le P. Dans le cadre de la camionnette d'alimentation générale et culturelle.
Voilà, c'est ça. C'est la camionnette qui, tous les étés, sillonne le département. C'est une action que l'on fait avec le conseil le départemental et la DRAC. Voilà.
Voilà. Et donc, ça se déroule tout l'été, cette camionnette. Elle joue tous les jeudis et tous les vendredis dans tous les villages du département, dans plein de villages du département. Les gens du village ont un programme, des villages ont un programme, ils savent quand la camionnette va passer chez eux, mais ils ne savent jamais ce qu'ils vont voir. Donc ce sont des petites pastilles entre 20 et 30 minutes, c'est ça à peu près. Hein. Voilà. Et donc nous avons joué la première farce, nous l'avons jouée 8 fois, donc 4 fois par jour. Et on se déplace dans la camionnette, on va d'un village à l'autre, tac tac, on rencontre les gens, on boit un coup avec eux, et c'est très très sympa. Et c'est très sympa pour les gens aussi, bien évidemment.
Du coup, on retrouve là l'esprit populaire des scénettes.
Bien sûr.
Jouées sur des parvis ou des choses comme ça.
Bien sûr, le théâtre, à la base, c'est populaire de toute façon. Non,
là, c'était une version un peu tout-terrain. La version salle est un petit peu différente. Et puis, c'est bien que tu dises qu'on buvait un coup après, parce que dans le département, ça fait partie de notre programme côté jardin, il y a aussi un coup à boire après.
Quand on joue, là.
Quand on va jouer.
Là, sur les dates qui sont inscrites sur le catalogue.
Dans les salles.
D'accord.
Bon, oui.
On partage avec les gens, c'est bien. ça sert à ça.
Et d'ailleurs, vous jouez en salle Auberti, donc oui. Avec des proportions quand même assez réduites. Et
bah, il faut
vous êtes près du public, quoi, en fin de compte.
On est très près, oui.
C'est une petite forme, hein, ce qu'on appelle les petites formes. Donc, on ne peut pas jouer ce spectacle dans la grande salle, ça serait. On passerait à côté. C'est fait pour ça.
C'est une création, ma création de l'année, qui a donné lieu à une résidence, c'est ça ?
C'est ça, oui. Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer le principe des résidences de création à la maison, notamment ?
Les résidences, alors, il y a plusieurs types de résidences, mais en général, il y a les résidences avec nos artistes associés, voilà, dont je fais partie, de fait, mais qui sont... on met à disposition la salle, les techniciens, la technique. Quand il y a des comédiens qui viennent de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de cabouise, évidemment, ils sont hébergés, on leur donne à manger, parce que ça mange les comédiens.
Et les techniciens aussi.
Les techniciens, ils sont à demeure pendant le temps de répétition. Voilà, ce qui permet de bien travailler, d'être vraiment au cœur des répétitions de la pièce.
D'accord. Au niveau du travail du texte, tu parlais d'une adaptation. Est-ce que tu t'es occupé de l'adaptation ? Est-ce que c'est...
Oui, j'ai fait un peu des petits arrangements dedans, oui. Oui, ça j'aime bien.
Oui, mais tu avais trouvé le texte, ce que tu nous avais expliqué, c'était que je crois que c'est un universitaire suisse qui a fait la traduction.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais par exemple, la première farce, le Pont aux Ânes, j'ai pris qu'une scène que j'ai adaptée pour une autre des scénettes qui pouvait matcher. Faire une bonne entrée en matière, on va dire ça.
Oui, mais ça c'est ça fait partie des spécialités de Jean-Luc de quitouiller comme ça. Il aime bien.
Alors on change radicalement de format entre l'année dernière et cette année, puisque l'année dernière c'était le Chevalier et la Dame. Oui. On était là dans la grande salle avec un spectacle en décor, en costume, et en couleurs. Et alors il y a toujours les couleurs, mais on change de proportion, on change d'esprit.
On change d'esprit, puis là il y a 4 comédiens, on était 11 l'année dernière, et là, en revanche, là, ce sont 4 comédiens qui jouent plein de personnages.
Alors on parlera un peu plus en détail peut-être de ce spectacle de l'année dernière après la pause musicale, mais pour dire quand même que sur ces idées, ces initiatives de spectacle, tu es seul en piste. En gros, l'idée germe comment ?
Ah, l'idée, elle germe. En fait, c'est pas une idée qui germe. Moi, j'ai toujours beaucoup d'envie et d'idées qui sont là. Après, ça sort du chapeau quand ça peut sortir du chapeau. Parfois, c'est très facile. Parfois, il y a des spectacles je vais mettre honnêtement une dizaine d'années, comme le Cabaret des Hommes Perdus ou
Dorothy Parker.
Dorothy Parker, là, j'ai fait un gros travail de traduction, mais il y a des spectacles qui mettent beaucoup plus de temps parce que d'un spectacle, ça coûte des sous. Et il faut trouver des gens qui veulent bien mettre de l'argent pour la production d'un spectacle. Donc, parfois, ça va très vite et parfois, ça met beaucoup de temps.
Il faut préciser que ce sont les spectacles du Caramel Fou, la compagnie du Caramel Fou.
Tout à fait.
Qui donc est une compagnie que tu as créée.
Oui, ça fait 36 ans maintenant.
Ouais. Il y a eu d'ailleurs l'exposition anniversaire l'année dernière à la maison, dernière,
ouais.
Où on avait eu l'occasion de voir ce qui restait de certains décors, pas mal de costumes, des photos aussi.
Des photos, et puis on a même fait avec WebTV un documentaire qui n'était pas terminé, et qui est enfin terminé, et qu'on va projeter
le
à
17,
FI.
17 novembre.
Le 17 novembre.
Le 17 novembre à FI.
Ouais. Oui, au Théâtre de l'Entre-deux. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Entre-deux, hein.
Entre les représentations, on va le montrer.
Eh bien, alors, on va mettre la référence sur la page, le site internet de l'émission et sur la page Facebook.
À 20h, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça.
It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. Ooh. What the hell did I do? Never been the type. Let someone see right through.
Sur Façon de voir, on a parlé il y a un instant du pèlerinage à Sainte-Caquette. On n'a pas donné les dates, on les donnera bien sûr sur la page Facebook de l'émission, la page Instagram, c'est fdv.9rfm. Toutes les dates seront inscrites, y compris sur le site internet de 9rfm. Vous cliquez sur l'onglet émission, Façon de voir, et on vous donnera toutes les dates. Les dates, vous les retrouvez également sur le catalogue de la programmation de la maison. La prochaine, c'est la première, bien sûr, le 8 novembre. Mais c'est complet à la maison, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous pouvez quand même avoir des séances de rattrapage à Châtillon-en-Bazois le 10 novembre, à Infi le 12 novembre, La Roche-Millet le 14 novembre, De Cise le 16 et Pouglézeau le 18 novembre.
C'est ça.
Pour donc ces fameuses farces grivoises dont on a parlé en première partie d'émission. On va parler maintenant de la compagnie du Caramel Fou. Et je vous propose d'écouter ce petit document.
Votre mari est un drôle de chevalier.
Si vous savez y faire, il vous donnera bien du plaisir.
Je suis un homme qui, lorsqu'il dit la vérité, ne ment jamais.
Soyez les bienvenus dans le pire. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne veut.
mère du sang. Il vaudrait pour toi n'être jamais né.
Il n'a plus toute sa tête.
C'est la sénilité.
Trois extraits qui remontent le temps, puisqu'on a démarré avec Le Chevalier et la Dame, spectacle monté l'année dernière. Et puis, on enchaîne avec Le Cabaret des Hommes Perdus et Le Roi Lear.
C'est ça.
C'est un peu plus de 30 ans d'existence du Caramel Fou.
Oui, je crois. Ça doit, je suis un peu perdu dans les dates, en fait.
Très vite.
Le Roi Lear, c'est 2015. Le Cabaret, ça doit être 2006.
Voilà. Oui, c'est ça.
Ouais.
Ce sont des moments... j'imagine, rempli de souvenirs et d'anecdotes.
Oui, ben forcément, ce sont des moments importants. Il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres, mais le cabaret, c'est, enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais c'est un spectacle qui a été très difficile à monter par rapport à la thématique, par rapport à... Et puis finalement, Jean-Michel Ribes au rond-point dit banco, on l'a monté, et c'est vrai que je me suis dit, là, je ne sais pas du tout si ça va trouver son public, et ça l'a trouvé extrêmement rapidement. Bon voilà, puis ça a été jusqu'aux Molières et deux années de tournée.
Le cabaret, il faut préciser que c'est un spectacle musical.
Oui, pardon.
Tu as passé commande
à un auteur,
à différents artistes. Oui. Et donc, c'est aussi une collaboration.
C'est une collaboration. J'ai fait la même chose avec La Nuit des Lieux de Folle. Et puis, il y a un autre projet, j'espère qu'un jour sortira, si j'ai le temps, musical pour clore la trilogie. Voilà.
Et Le Roi Lear, c'est également une collaboration avec des comédiens.
Alors, il y a beaucoup de comédiens nouveaux. Il y avait des comédiens que je connaissais et qui n'avaient jamais travaillé. C'était un projet de la même manière avec Michel Aumont, dont on avait parlé en 2003, la première fois. Voilà. Et puis, Michel Aumont, à l'époque, partait du français et il commençait à travailler dans le privé. Donc, à l'époque, c'était très mal vu. Donc, il y a des directeurs d'État qui disaient « Oui, mais maintenant, il fait du privé. » Donc, moi, c'était très compliqué. Et puis, c'est resté avec Aumont. On en parlait de temps en temps, quand on se croisait. Et puis, il y a eu un moment, ça a été possible. Voilà. Donc, on l'a fait. Ça a été de son dernier spectacle. Il avait 80 ans à l'époque.
Le Caramel Fou, c'est à peu près combien de personnes en tout?
En fait, le Caramel Fou, c'est...
Bon, c'est lui.
On va dire c'est moi. Bah oui, parce qu'on peut pas en France avoir une troupe permanente, c'est impossible.
C'est pas une troupe permanente, mais par contre, il y a quand même des affiches récurrentes.
Voilà, c'est-à-dire que moi, j'aime bien retravailler avec des comédiens avec qui ça s'est bien passé, s'il y a des personnages ou des rôles possibles. Et c'est vrai que c'est... on va dire que c'est moi, bien sûr, avec une famille de comédiens... Qui, selon les projets que j'essaye toujours de pouvoir engager, c'est toujours agréable de se retrouver, et puis on travaille plus facilement avec des gens qu'on connaît bien. Voilà. Ça va plus vite, c'est pas que je veux aller plus vite, mais c'est toujours plus agréable. Quoi.
Louise, le Caramel Fou, c'est aussi une...
C'est ma famille.
C'est une famille au très long cours.
Ah oui.
Combien de spectacles, à peu près? À la louche, hein,
14, je ne sais plus, 14 ou 15, comme ça. Quelque chose dans le genre.
Tant que ça.
Ouais.
Il faut que ça cesse alors.
Bah non.
Oui, mais il paraît que tu dis ça à chaque spectacle.
Ce qu'il dit à chaque spectacle, c'est je suis trop vieux, c'est le dernier spectacle que je monte. Mais ça fait 30 ans que.
Comment vous savez ces choses-là?
Ça
fait partie des choses. Non, je dis toujours que je fais le même spectacle à chaque fois. Bon, je sais que c'est pas vrai, mais ça lui fait marrer. Bon, tant mieux.
Par exemple, tu l'avais dit sur Le Chevalier et la Dame, parce que tu avais dit on a démarré le Caramel Fou avec un Goldoni, on va finir avec un Goldoni, la boucle est bouclée, c'est magnifique. Voilà. Et puis finalement, là, tu montes une Farce Grivoise.
Ben, c'est parce que j'avais envie de faire un spectacle dans le département, j'avais envie de faire quelque chose un peu tout terrain. Et puis, bon, ben, voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme les chanteurs qui font leurs premiers adieux, et puis leurs derniers adieux, et puis les adieux du milieu. Mais oui, je travaille aussi sur d'autres projets, j'espère. Enfin bon, il y a un moment, ça va s'arrêter, le Caramel Fou, quand même.
Ben oui, le jour où il est mort, ça s'arrête.
Bon, qu'est-ce que je peux dire à ça?
Bon, ça a l'air loin, dis-nous la vérité, il y a encore des choses sur le feu?
Oui,
ou dans ta tête?
Non, je travaille sur une adaptation pour octobre 25, l'année prochaine, dont j'ai rien prévu. Il faut faire des pauses. Mais c'est un texte contemporain, et puis après, il y a un musical, peut-être. Mais. Et puis peut-être. Je sais. Voilà, c'est aussi, il y a aussi dans ce métier une histoire de rencontres et d'opportunités ou pas. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui, dans l'ordre des choses que je pourrais faire, ça va peut-être se rechambouler, puis on va peut-être me proposer quelque chose de super aussi, hors caramel fou, je ne sais pas.
Il y a aussi des commandes.
Oui.
Est-ce que tu peux nous... Il y en a actuellement de prévues ?
Non. Enfin, il y a une pièce de Nicolas Poiré, qui est une pièce de, une comédie très 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 bien, mais bon,
Des fils de Jean,
avec qui j'avais déjà mis en scène une autre pièce, mais je sais pas, peut-être que ça va se faire. Il y a un projet avec Amanda à lire, mais je ne sais pas si ça va se faire. Voilà.
Jean-Luc Revol, tu es de Nevers.
Oui.
Et toi, Louise de Châteauroux.
Oui, je suis Castelroussine, comme Depardieu. D'accord. Et comme Michel Denisot.
Ah oui, je ne savais pas.
Et oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à Nevers ?
Jean-Luc.
D'accord.
On avait marre, j'essayais de la refourguer à Nevers. Ils l'ont gardé.
On s'est connus à Paris.
Et ça fait un moment maintenant, Nevers ?
Ça fait 23 ans. Alors que quand je suis arrivé à Nevers, je me suis dit que j'allais peut-être rester 2-3 ans.
Oui, bon,
je n'apprenais pas le nom des rues comme ça. Au bout de 10 ans, je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même que je commence à les apprendre. Et puis j'y suis toujours. Et ben, je pense que j'y serai jusqu'à la fin de ma vie maintenant, probablement.
Et tu pourrais faire taxi parce que tu connais toutes les rues.
Ah non, je connais pas toutes les rues, non. C'est sûr que non. Non, non, mais les 10 premières années, je disais non, vous pouvez me demander une rue à Paris, mais à Nevers, je ne sais pas. Et oui, je m'aperçois maintenant quand je vais à Paris que je connais moins le nom des rues et que je connais de mieux en mieux celle de Nevers. Et puis Nevers, c'est une très très belle ville. C'est vrai, c'est une très belle ville historique, où il se passe, où il y a un milieu associatif énorme, vraiment. Je crois que je n'ai pas croisé d'autres villes en France où c'est aussi fleuri et important. Et je pense que quand on veut faire des choses à Nevers, on peut, dans quel que soit le domaine.
Les spectacles du Caramel Fou, vous les jouez à Nevers, et pas seulement, et c'est souvent suivi de tournées.
Il vaut mieux. Parce que c'est le but, c'est de les tourner. Et puis c'est sur les tournées qu'on peut faire un peu de bénéfice et rembourser un peu la mise de départ.
Du coup, c'est aussi une logistique.
Oui. Ouais, c'est une logistique, mais il y a.
Notamment quand on tourne en décor et.
Ah oui, surtout le Chevalier, oui, c'est gros. Hein.
Donc le Chevalier, c'est le dernier spectacle, hein, celui de l'année dernière.
Oui.
Dont on a entendu un extrait tout à l'heure.
Qui repart en tournée, là, janvier, février, mars. Il y a encore des dates.
En général, les spectacles se jouent combien de temps à partir du moment où vous les lancez ? C'est variable.
C'est très variable. Ouais. Il y a des spectacles, par exemple, Le Préjugé Vaincu, où Louise jouait dans de Marivaux, qui est un spectacle un peu comme les farces, d'ailleurs, qu'on avait monté pour le jouer assez peu, et qui finalement a fait plus de 200 dates. Voilà. Et puis il y a des spectacles, on dit ça va cartonner et on fait
30
dates. Mais maintenant les tournées sont beaucoup plus courtes.
Ouais.
De Nevers, Jean-Luc, tu es passé à Paris.
Oui.
Notamment, c'est l'ECM, c'est comme ça qu'on dit ?
Ah, l'ECM, c'est plus tard, ça, c'est l'école de comédie musicale, oui.
Et puis il y a le cours Florent, qui est d'ailleurs un point commun que vous avez tous les deux, puisque Louise, tu as enseigné au cours Florent, et puis Jean-Luc aussi.
Oui, c'était ma première professeure.
C'était son premier prof, surtout.
Voilà, c'est là que vous
voulez
en venir.
C'est ça
qu'on s'est venu. Ouais. Et voilà.
Et aujourd'hui, Louise, tu enseignes au Conservatoire de Nevers.
Absolument. Absolument, j'enseigne au Conservatoire de Nevers.
L'art dramatique, évidemment.
L'art dramatique, et j'ai une classe avec la prof de danse et une prof de chant de comédie musicale, également, qu'on m'a créé l'an dernier. Voilà, donc, et puis j'ai cette classe de théâtre autrement. Ça fait un petit peu de travail. Mais bon, nous sommes trois à enseigner l'art dramatique au conservatoire. Il y a beaucoup de classes en réalité. Peu de gens savent qu'au conservatoire, il y a du théâtre, mais ça existe depuis 16 ans. Voilà. Et il y a beaucoup d'élèves.
Notamment, c'est les classes que tu as ouvertes, hein, souvent.
Oui, oui. J'ai été la première à enseigner là-bas, effectivement, pour avoir créé le département théâtre. Mais j'ai été rejoint par mes petites camarades. Nous sommes trois femmes, Marie-Julie de Coligny et Sophie Mandin, et puis moi-même. Voilà.
Alors, ce qui est chouette, c'est qu'avec le Caramel Fou, on a à la fois des spectacles pour enfants, des comédies musicales, des farces grivoises, on en a parlé. Le répertoire est très varié quand même.
Ah bah oui, mais moi je passe mon temps à faire des choses que j'essaye en tout cas de faire des choses que je n'ai jamais faites. D'abord parce que ça ressource. sinon c'est pour faire le même spectacle tout le temps, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout pour ne pas être dans des cases, parce qu'en France notamment, on a vite fait de vous mettre dans des cases, on dit bah, lui sait faire du boulevard, lui sait faire ça, lui sait faire ça. Et moi j'ai toujours un peu mélangé les choses, voilà. J'aime bien.
Et si je puis me permettre, une spécificité de Jean-Luc, quand il était plus jeune, ben, où il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la compagnie, non. Il montait des œuvres inconnues écrites par de grands auteurs. Quand a monté par exemple La Princesse des Lides, quand il nous a proposé la pièce, moi je ne savais pas quelle était de Molière cette pièce, mais je pense que je n'étais pas la seule. Voilà, donc celle-là, quand a monté l'Eurostratagème, c'est pas l'Eurostratagème, le Petit Maître Corrigé, c'est à Marivaux, pas très souvent monté. Donc, des œuvres méconnues, mais de grands auteurs.
Et je dis peut-être une bêtise, mais le Goldoni, donc le Chevalier et la Dame, tu l'as monté tout de suite après que l'œuvre ait été traduite.
En fait, il y avait une traduction qui existait, mais elle était vieillotte. J'ai fait refaire une traduction, en fait. De la pièce. Donc, ça n'avait jamais été monté en France non plus. Hein.
Il y a aussi comme un travail de, j'ose pas dire de patrimoine, mais de rafraîchissement et de.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Moi, l'italien, bon, sur le roi d'Ire, j'ai refait la traduction aussi. Bon, ça, c'est mes restes de.
De prof d'anglais.
De prof d'anglais, mais. C'est intéressant de retravailler sur un texte.
Ah oui, tu as fait une licence d'anglais, c'est ça, une maîtrise d'anglais.
J'ai pas fini la maîtrise, en fait. Voilà. Oui, j'étais prof d'anglais au cours moi, pendant 6 mois.
Après, il s'est dit, allez.
Et puis tu t'es dit l'enseignement, non.
Exactement, je suis allé voir mon proviseur, je dis, écoutez, j'étais maître auxiliaire, et je me suis dit, voilà, je vais arrêter, parce que je vais faire du théâtre, et mes parents m'avaient dit, bon, d'accord, ils avaient fini par dire oui, et après mes diplômes, mais bon, il était un peu abasourdi, je dois dire, mais très sympathique, j'ai plus son nom de ce monsieur, et puis je suis parti chez Florent.
Et il t'a pas proposé de monter un club théâtre
Non, mais j'en avais déjà fait du club théâtre au Banlay.
Il y avait le Bœuf Mode avant le.
Oui, mais la compagnie amateur.
Il avait une compagnie à Nevers avant de commencer.
Il y avait une compagnie avant le Caramel Fou.
Oui.
Alors là, ça j'ignorais. Le Bœuf Mode.
Ouais. Ça d'accord. S'invente pas.
Et il jouait au pub.
On jouait partout.
Dans le sous-sol, c'est ça.
Oui, on jouait.
Et vous jouiez quoi?
Qu'est-ce qu'on a joué? On a joué du Hanouille, l'orchestre. On a joué des pièces que j'avais écrites. Là, j'ai arrêté parce que je pense que c'est mieux pour l'art dramatique. Et
je voulais t'en parler de l'écriture. Tu as quand même écrit des choses pour le Caramel Fou.
Oui, bah, c'est
notamment
ça.
Le cabaret, c'est quand même.
Ah non, j'ai pas écrit. Alors, non, c'est un auteur qui l'a écrit, c'est Christian Siméon. Mais c'était un ping-pong entre ce qu'il écrivait, les directions qu'on parlait, et puis on avançait ensemble. Non, moi je suis pas auteur, moi. Oula.
Oh, t'écris pas mal.
Oui, non, mais d'accord, mais je peux pas écrire une pièce. Enfin, c'est.
Juste avant la pause musicale, on avait évoqué le rapport au cinéma, notamment à travers ce document qui va exister autour du Caramel Fou.
Ouais.
Toi, tu voulais être réalisateur ?
Oui, mais j'étais pas très bon en maths, en fait. Et à l'époque, il fallait faire l'IDEC. Et bon, bah, ça m'a un petit peu rafraîchi. Mais j'ai quand même travaillé dans le cinéma, bizarrement. Comment je suis arrivé dans le cinéma ? Tiens, c'est une bonne idée, ça. Enfin bon, donc j'étais assistant réalisateur, enfin assistant, j'étais un peu homme à tout faire sur des films de Romer. J'en ai fait 2 avec lui, et puis des courts-métrages, et puis des choses comme ça. Ouais.
Et puis tu as joué
Au cinéma ?
Ouais.
Un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu, ouais.
Louise aussi ?
Oh, un petit peu.
Non, un peu, oui, à la télé, tout ça. Là, j'ai un peu laissé tomber tout ça, parce que je peux pas tout faire.
Nous sommes plus des gens de théâtre que de cinéma, finalement.
Oui, on m'avait proposé 15 jours de tournage, mais c'est en Nouvelle-Zélande. Je dis ça, non, je peux pas partir 15 jours, pas possible.
C'est dommage.
Oui, mais on peut pas tout faire.
Bah non.
Il y a la maison, il faut la tenir.
Bah oui.
T'as proposé un tournage en Nouvelle-Zélande.
Oui, c'était pour jouer un majordome. Je ne sais pas, parce que je me souviens même plus tout à fait de synopsis. Mais c'est pas grave.
Parmi tes marottes, il y a aussi les masques.
Ah oui, wow, ça fait un moment ça déjà.
Ouais.
Bah oui, on avait fait le théâtre deux fois ensemble. C'est né d'un stage que j'avais fait à Chaillot, au théâtre de Chaillot, d'improvisation. Et il y avait également une partie masquée. Il y avait Georges Bonneau, qui faisait partie du théâtre du Soleil, qui nous enseignait le masque. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Voilà, donc je suis un petit peu parti là-dedans.
C'était également des farces, mais du 18e en revanche.
C'est ça.
C'était des textes de Le Sage.
J'aime bien le masque, ouais. C'est toujours, c'est vraiment intéressant.
Après la prochaine pause musicale, on va écouter la pastille « Avoir à lire ». Mais tout de suite, on écoute Sparrow, alias Florian Rondel, petit rappeur. Est-ce que ça te dit quelque chose, Florian Rondel, Louise? C'est un piège, là.
Je me demande s'il nous a pas écrit un rap.
Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Le rap d'une pièce que tu as mise en scène,
ouais.
Et qui se jouera le 26 novembre à Châtenay-Saint-Imbert.
C'est ça, c'est ça.
Du vent dans les branches de Sassafras.
Voilà. Et il nous a écrit la musique de fin. Il est parti de la musique de Dallas. Lui, il n'était pas né quand la série existait. Et ça vire en rap après. Alors, c'est plutôt bien. C'est plutôt même très bien.
On peut l'écouter d'ailleurs. Hein,
ouais,
je l'ai là. Tiens, je la mets comme ça.
On
l'écoute et puis ensuite, on écoutera son nouveau son, comme il dit.
Demain je me casse à Dallas, je veux du pétrole et des lingots. Voler des magots, je finirai sûrement mes galons. Il faut une grosse caisse pavaner dans la ville avec un cigare à la bouche. Change une baraque la plus chère. Me laver les dos au champagne et puis revenir dans la campagne. Ouais, fuck le taf, on va rouler dans les quartiers. Fuck le taf et puis je me casse à Dallas.
Grosse caisse. Ah, le petit Sparrow qui a fait de la route, hein, parce qu'en fait, il a fait sa première radio ici il y a un an.
Ah ouais.
Et puis, c'était mon étudiant, en fait. Et puis, il nous a gentiment écrit cette petite partie.
Oui.
Et puis là, on écoute son nouveau titre, parce qu'il commence à bien marcher. Et ça s'appelle Petit Rappeur.
Check ça, bitch, hein. Coucou, c'est Sparrow, je suis le mec que t'attends pas. J'étais content quand j'arrive, quand ça pète et quand ça rime. Je vais te mettre et je fais du rap. Je suis déjà un grand rappeur. La vérité t'en a peur, ma vie c'est un film sans acteur. Et chope ça, hey, quand t'as claqué, prends des notes. Quand t'as claqué le vent des clubs, dis-toi que c'est rien qu'un grand décor. Imagine que tout est fake et que le plus dur reste à faire. T'es baissé dans les staffettes, chope la vague et laisse-toi faire et baisse la fenêtre. Check ça, on n'est pas trop terre à terre. Et toi mon pote, t'es raté. Tu prends tes parts et tes affaires. C'est l'ambition qui me sortira des rangs. Je le répéterai autant qu'il faut. La casse des pas, je vais pas en sortir adhérent. Et on obligera des grands à nous adouber avec des micros saignants. Parce qu'on est ni trop con, ni trop faible, ni trop feignant. Ok c'est bon, tu m'as compris. Je suis un champion sans médaille, sans couronne, ni trop feignant, hein. Ok je parle de rap, dans des textes de rap, sur des scènes de rap, devant des têtes de rat avec ma tête de rat. Quoi, on est tous les mêmes, mais je suis pas pareil. Je suis l'ingrédient secret, je rappe en avis dans ce game. On n'habite pas dans les mêmes eaux, je suis à quelques encablures. Mon encadre dans mon cartable et quelques potes en cas de danger. J'attaque la prod en catapulte, les pieds dans le vide sans parachute. Le rap vient de c'est une cavapute, je vais les tirer par la capuche, yeah. On t'avait dit de venir, mais t'es malvenu. T'as pris du poil de la bête, mais t'es malvenu. Devenir un bon MC, j'y suis parvenu. Petit rappeur, viens t'asseoir que je te tape le cul. On t'avait dit de venir, mais t'es malvenu. T'as pris du poil de la bête, mais t'es malvenu. Devenir un bon MC, j'y suis parvenu. Petit rappeur, ramène-toi que je te tape le cul. Et je continue, je veux qu'on retienne mes textes comme I am. Poto case ou back, bitch, I am. Ouais, mon truc c'est la boomba, tant pis. Si tu kiffes la trappe, ma doc ne s'écoute pas au casque, mais elle a pas de crack. Ouais, je gravis la montagne peu à peu. M'appelle pas si tu veux de la beubé avec le poto slime. Fais des listes de la clientèle avec des punchlines. Prends les fans de rap pour les gueules, là, c'est la puce là. Y'a des choses qui font kiffer dès le matin comme un neuf au plat. Mais casser la vaisselle ou trop parler, ça il ne faut pas. Ton pleura, c'est le kebab du coin de la rue. C'est pas très propre, mais j'y vais quand y'a rien d'autre. Comprimé dans la main gauche et ça part dans tous les sens. Ouais j'écris centaines, croise les doigts, on me diffusera sur mille antennes, hein. En attendant, préparez les chrysanthèmes. Génocide en prévision, je les flingue et puis j'en tais à Europe. J'ai passé 20 ans sur la terre à pas comprendre les règles du jeu. Mais j'observais, je suivais, à l'école j'étais studieux. On n'est pas dans la même partie, ouais j'ai kiffé quand j'ai compris. C'est comme ça qu'on mène la vie, on n'a pas tous le même avenir. J'ai passé 20 ans sur la terre à pas comprendre les règles du jeu. Mais j'observais, je suivais, à l'école j'étais studieux. On n'est pas dans la même partie, ouais j'ai kiffé quand j'ai compris. C'est comme ça qu'on mène la vie, on n'a pas tous le même avenir. Ouais.
Jax.
Toujours avec vous.
C'est l'heure de votre pastille à lire dans Façon de voir. Aujourd'hui, Laure nous propose la lecture d'un roman. Bonjour Laure.
Bonjour Samuel. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un livre de Fabienne Betting qui s'appelle La théorie des poignées de main, qui est paru aux éditions Les Escales en 2020. Alors Fabienne Betting, à la base, elle a fait des études scientifiques et puis elle a commencé à écrire des nouvelles pour son plaisir. Et en 2016, elle a publié son premier roman et son deuxième, c'est donc La théorie des poignées de main qui est sortie en 2020. Alors cette théorie des poignées de main, elle n'a pas été inventée pour son roman, elle a repris une théorie qui était déjà existante et très ancienne. On l'appelle aussi la théorie des 6 degrés de séparation. En fait, cette théorie, elle a été élaborée par un Hongrois du nom de Carenti. C'était un homme de lettres. Pour résumer, il avait la théorie selon laquelle toute personne pouvait être reliée à une autre personne dans le monde au travers d'une chaîne de relations individuelle comprenant au maximum 6 maillons. Alors Fabienne Betting, elle a repris cette théorie qui a depuis fait énormément parler. En fait, ça a intéressé quand même beaucoup de sociologues, de mathématiciens, de psychologues aussi qui ont cherché à valider ou non cette théorie. Il y a eu beaucoup d'études menées là-dessus et donc elle l'a repris pour son roman, mais elle nous dit dans les remerciements que ce roman n'a d'autre prétention que de distraire ses lecteurs. Donc voilà, ça n'a pas un but scientifique, mais vraiment nous embarquer dans un voyage. Alors dans son roman, on va faire la connaissance d'Antoine Cavallero. C'est un jeune étudiant en statistique. Il prépare un doctorat et il a choisi comme thème la théorie des poignées de main. Et puis il va rencontrer un grand professeur qui s'appelle Denis Mettley. Il va le rencontrer au cours d'une conférence et puis il va lui présenter sa théorie. Et alors ce fameux professeur, il va lui lancer le défi de mettre en pratique ses recherches. Alors il va lui donner le nom d'une personne totalement au hasard et la date et le lieu de naissance de cette personne. Et puis il va lui donner 3 mois pour établir une chaîne constituée de 5 intermédiaires qui le relieront donc à cette 6e personne. Donc le personnage principal, Antoine Cavallero, part dans une quête pour prouver cette théorie. Et ça va le mener dans plein de pays. Il va partir au Vietnam, aux États-Unis, on va le retrouver en Suisse. Et puis il va recevoir l'aide de différents personnages. Et on va finir, nous, lecteurs, en fait, par voyager aussi avec Antoine. Et puis, c'est des personnages humains auxquels on finit par s'attacher. Et au final, ce voyage qui avait une origine purement scientifique va devenir une vraie expérience humaine. On va vraiment partir et s'attacher à tous ces personnages. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire que Fabienne Betting dit que ce roman n'a pas a pour vocation vraiment de distraire ses lecteurs. Et ben, pour ma part, je trouve que c'est une vraie réussite puisque ça nous emmène avec ce personnage dans plein de lieux et on s'attache vraiment à tous ces personnages. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui est donc La théorie des poignées de main, écrit par Fabienne Betting et qui est paru aux éditions Les Escales en 2020. C'est
Vous êtes toujours avec Samuel sur 9h FM dans l'émission Façon de voir, avec aujourd'hui pour invité Louise Joly, Jean-Luc Revol. On reparle rapidement de cette pièce, Le pèlerinage à Sainte-Caquette, la première mercredi 8 à la maison, suivie de plein d'autres dates que je ne peux plus donner puisque Jean-Luc m'a pris ma brochure. Mais de toute façon, on met toutes les dates, je les ai dites en ligne tout à l'heure, et on remet toutes les dates sur la page Facebook de l'émission. fdv.9rfm, c'est l'identifiant Facebook et Instagram. Donc mais tu peux garder la brochure. C'est le moment de parler peut-être de la maison et de sa programmation riche et variée, comme tous les ans.
On essaye.
Est-ce que vous pouvez donner un rendez-vous au public qui, par exemple, ne se rend pas systématiquement au théâtre, ou des choses qui paraissent peut-être assez immédiatement accessibles et sympathiques?
Bah, y a beaucoup de choses. Parmi les spectacles du fil rouge de cette saison, qui sont autour du masculin-féminin, on peut recommander le 3 février Madame Osbachung, qui est un spectacle de cabaret, on va dire ça comme ça, où trois créatures qui viennent chez ex-Madame Arthur se réapproprient tout le répertoire de Bachung. C'est vraiment super. Il y a un quatuor à cordes, il y a un pianiste, il y a un guitariste, et c'est... En plus, ils chantent super bien. Et donc, ces trois personnages, Patachetouille, Corinne et le troisième, ne me vient pas, mais c'est pas très grave, réinterprètent vraiment tous les gros tubes et des chansons moins connues de Bachung. Et c'est extrêmement festif et joyeux. C'est vraiment un spectacle où on se détend et si on aime Bachung, parce qu'évidemment si on n'aime pas Bachung, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, c'est vraiment une belle soirée.
La maison, je le reprécise ici, puisqu'on a eu aussi à notre micro Christophe Wout qui a parlé des expositions. C'est aussi des expositions. D'ailleurs, ouais, celle du moment est très chouette. Les forains viennent toujours d'ailleurs. Elle dure un peu, cette exposition?
Elle dure, oui, jusqu'au mois de décembre, moi, jusqu'aux vacances, je pense. Prépare là, oui.
Et il y a aussi une artothèque.
Et l'artothèque qui prend un petit peu d'ampleur là, puisque on a de plus en plus d'œuvres, et j'espère qu'on aura de plus en plus d'adhérents justement à cette artothèque. C'est le système des bibliothèques, hein, finalement, mais où on emprunte une œuvre d'art, voilà, pendant un certain temps, comme un livre.
J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans Façon de voir, mais D'accord. C'est prévu en fait.
Bon, ben voilà.
et alors moi j'aimerais... Je ne l'ai pas vu, mais bon, j'ai lu le livre et j'aimerais beaucoup vous voir. Mangez-le si vous voulez, qui est mis en scène par Jean-Christophe Dolé et Clotilde Mangieff, qui sont artistes associés.
Ce sont nos artistes associés.
C'est la compagnie Fouic.
Ouais. Et en fait, ils reprennent leur spectacle. C'est un spectacle tourné pendant plus de 300 fois, qui a eu énormément de succès. Et là, ils le reprennent exceptionnellement pour la maison. Donc, il y aura une seule date. Mais il n'y a plus beaucoup de place non plus.
Ah, mais donc, faut que je me dépêche, parce que si je veux faire une sortie pédagogique dessus, il faut que je me visite très vite.
Je pense qu'on va attaquer le balcon, là.
Ah ouais, bon, mais il faut que je vois ça assez rapidement. Je voudrais bien le voir, vraiment. Moi, j'adore le bouquin, et puis j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc c'est bien.
Là, c'est chouette. Ouais. Ils feront leur création en janvier 25, là, leur nouvelle pièce.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, il faut se dépêcher. Rendez-vous à la maison pour réserver les places, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ou sur Internet, c'est encore plus pratique.
Quant à moi, je vous recommande la lecture d'un livre très sympa, Frédéric Chevaux, Jean-Luc Revol, L'art du décalage. Ce que j'aime particulièrement, c'est sa structure. Parce que du coup, c'est quand même assez enlevé, c'est plein d'anecdotes, c'est
on
chouette.
On a gardé le principe de l'interview qui rendait le livre plus vivant, parce que quand ils m'ont proposé de faire ce livre à l'avant-scène, je voulais pas que ce soit roboratif, ni que ce soit une leçon de théâtre. C'est plus sur le parcours, mon parcours, voilà. Et c'est un livre que moi j'ai fait pour les gens avec qui j'ai travaillé. Et puis, je pense, les gens qui ne connaissent pas mon parcours, c'est un livre très très facile à lire et assez joyeux, je pense.
On aborde ton parcours à Nevers, ouais, à Paris, et ensuite on revient sur les moments forts du Caramel Fou, avec les pièces, et puis c'est bourré d'anecdotes, et il y a même un carnet d'illustrations couleurs.
Ouais, je dis pas trop de méchanceté, c'est bien.
C'est paru au 4 vents, sorti en 2002, je le recommande donc. L'art du décalage, Jean-Luc Revol, L'art du décalage. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir passé du temps avec nous.
Ouais.
Donc on redonne le rendez-vous principal, le pèlerinage à Sainte-Caquette, qui démarre le 8 novembre et qui va jusqu'à la fin du mois dans à peu près tout le département, c'est ça.
Et puis, voilà. Et puis si ça marche très bien, on reprendra sûrement.
Merci à vous. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Façon de voir consacrée à la culture.